Anne-Laure Babeau est notre invitée ce matin, bonjour.
Bonjour.
Députée de la Charente-Maritime sur la deuxième circonscription de Rochefort-Aunis. Avec vous, nous allons aborder plusieurs sujets d'actualité. Tout d'abord, demain, cela fera 5 mois que vous avez été élue sous les couleurs de la majorité présidentielle. Quel bilan tirez-vous de vos débuts à l'Assemblée nationale ?
C'est un mandat qui démarre de manière très intense. Et donc, ce que je retiens, c'est qu'il y a un travail important, notamment en commission et d'audition, au-delà de ce qu'on peut voir dans l'hémicycle.
Alors, vous avez lancé début octobre des permanences itinérantes dans les principales communes de votre circonscription. C'est tous les lundis de 10h à 13h. C'était important pour vous d'être au plus près des citoyens et des élus locaux ?
Oui, la circonscription est grande. Elle compte 67 communes et il me semble important d'être bien implantée sur tous les territoires. Donc on tourne sur 7 communes.
Et effectivement, vous serez le 21 novembre à Sainte-Soulée-Rochefort, le 28 à Aigrefeuille et Courson, 5 décembre à Étré et Rochefort, et le 12 décembre à Surgères et Maran. Et vous reprendrez en fait ces réunions à partir du 23 janvier, hein, c'est ça ?
Tout à fait.
Alors abordons à présent les questions d'actualité nationale dans un premier temps, avec tout d'abord l'adoption hier au Parlement du projet de loi sur l'assurance chômage, que fustigent la gauche, l'extrême droite et les syndicats. Sans recours cette fois au 49.3, le texte prévoit une modulation de la durée maximum d'indemnisation. Ça veut dire quoi concrètement ?
Mais ça veut dire qu'on va adapter l'indemnisation en fonction de la conjoncture économique. L'indemnisation, en fait, c'est une continuité de ce qui a été fait sur le dernier quinquennat. Donc là, ce qui est concrètement mis en place, c'est effectivement une indemnisation qui va s'adapter au niveau du chômage. Donc aujourd'hui, le chômage est au plus bas, donc à noter à 7,3%, donc au plus bas depuis plus de 15 ans.
Les carburants, le coup de pouce de l'État a diminué mercredi avant une suppression totale à la fin de l'année. Quelle solution ensuite pour les ménages ?
Donc là, on était sur une situation d'urgence, donc avec des aides d'urgence. Là, on attaque jusqu'au 31 décembre, donc une aide de 20 centimes, 10 centimes par l'État et 10 centimes par les stations totales. Et à partir de 2023, on sera sur une aide aux gros rouleurs qui n'est pas encore tout à fait définie dans le cadre.
Une indemnité pour les travailleurs, hein, c'est ça ?
Tout à fait. Pour ceux qui roulent beaucoup.
Bien. Concernant les prix de l'énergie qui ont fortement augmenté, l'hiver s'annonce rude à tout point de vue. Chacun doit faire des efforts pour faire des économies. Le président a présenté son plan de sobriété énergétique. Vous encouragez les habitants et la population à faire des efforts ?
Je pense que les habitants doivent faire des efforts, mais surtout les entreprises, les collectivités. Je pense que chacun doit faire sa part en termes de sobriété, que ce soit d'ailleurs sur l'énergie ou d'autres sujets.
C'est le cas, effectivement. Hein. On peut voir pas mal d'articles passer dans la presse. Les collectivités s'engagent pour réduire notamment l'éclairage public avec une extinction allongée. Ça, c'est important. Vous encouragez les élus dans ce sens-là ?
Bien sûr. Et puis, c'est aussi de baisser les températures dans les locaux des collectivités.
Et les aides dans tout ça ? Les aides pour les ménages ?
Les aides pour les ménages par rapport à l'énergie, alors on l'a vu cette année, hein, le bouclier tarifaire a permis de limiter fortement la hausse, puisqu'on a une hausse à peu près de 4% cette année et l'année prochaine, donc elle est annoncée à plus 15. Si on n'avait pas eu le bouclier tarifaire, on aurait eu des factures qui auraient été x2, x3. Donc voilà, il y a eu des aides considérables par l'État et la France, de ce point de vue, a eu une démarche la plus responsable par rapport aux autres pays européens.
Dimanche dernier, une manifestation contre le racisme a lieu à Paris en présence de Carlos Martins Bilongo, le député de la NUP, qui affirme avoir été victime de propos racistes en pleine assemblée par le député RN Grégoire de Fournas avec le fameux « qu'il retourne en Afrique ». Vous y étiez à ce moment-là ?
Oui, j'y étais, et comme beaucoup, je n'ai pas entendu la précision des mots, mais quels qu'en soient les mots, il n'est pas acceptable d'avoir des propos racistes dans l'hémicycle. Après, ce qu'il y a aussi à retenir, c'est qu'il y a une instrumentalisation des LFI là-dessus,
qui a fait monter la mayonnaise, c'est
tout
ça ?
Tout à fait.
Ouais, alors le député RN a écopé de la plus lourde sanction, soit 15 jours d'exclusion et la réduction de moitié de son indemnité parlementaire pendant 2 mois. C'est pleinement mérité ?
Oui, tout à fait.
Vous étiez favorable justement à cette sanction, vous ?
Ah oui, oui.
Alors de même, peut-on insulter impunément un élu de la République et de surcroît un député ? Le 10 novembre dernier, l'animateur Cyril Hanouna s'en est pris verbalement à son invité sur C8, le député LFI Louis Boyard. L'ARCOM, ex-CSA, a décidé de lancer une procédure de sanction contre la chaîne qui avait déjà écopé d'une amende de 3 millions d'euros en 2017 suite à un canular homophobe. Là encore, c'est mérité.
Alors, moi, je suis pour l'ordre et le respect et je ne suis pas du tout fan de l'émission de Cyril Hanouna. Je trouve qu'elle est dangereuse pour l'opinion publique. Et que ça soit effectivement Hanouna manquer de respect à une personne déjà, et effectivement un représentant du peuple, donc c'est pas acceptable. Après, Louis Boyard est aussi beaucoup dans le scandale, il est venu sur le plateau pour faire un scandale, comme il vient dans l'hémicycle pour faire des scandales.
Donc effectivement, voilà. Pas d'insulte envers un député, effectivement, qui que ce soit d'ailleurs.
Pas d'insulte, voilà, sur qui que ce soit. Et
surtout sur un plateau télé.
Tout à fait, et du respect.
Bien. La Coupe du Monde de foot, c'est dans 2 jours au Qatar. Plusieurs personnalités politiques du monde du spectacle et du sport appellent au boycott. Plusieurs villes également, comme La Rochelle. Le président Emmanuel Macron s'est prononcé hier contre le boycott, estimant que l'organisation du Mondial permettra au pays de faire avancer les choses sur la question des droits de l'homme. Quelle est votre position, Anne-Laure Babot ?
Alors, je pense qu'il fallait se poser les questions voilà, en 2010, quand, sous gouvernement du président Sarkozy, l'événement a été attribué. Néanmoins, je trouve que c'est un non-sens, puisque ce pays met à mal les droits de l'homme. Il s'inspire de la charia, il limite les droits des femmes, il interdit l'homosexualité. Donc, voilà, de ce point de vue-là, ça reste très regrettable. Ce choix est regrettable. Et au-delà de ça, d'un point de vue environnemental, tout cela va être organisé dans des stades climatisés. Il fait 30 degrés aujourd'hui au Qatar. Et donc, voilà, ce pays est le summum de l'hyperconsommation et va à l'encontre de la protection de l'environnement dont on parle tant. Donc, voilà, ce choix est très regrettable.
C'est un chantier très meurtrier aussi. Hein.
Oui, tout à fait. Je parlais tout à l'heure des droits de l'homme et aussi, effectivement, des conditions de travail. Donc, c'est un non-sens. Néanmoins, ça reste un événement populaire. Et je pense qu'il en va de la responsabilité de chacun et du choix de chacun de regarder ou pas en fonction voilà, des besoins. Aujourd'hui, le contexte en France et comme en Europe est difficile. Donc, les gens ont aussi besoin de retrouver du lien entre eux et le sport permet cela.
Vous serez devant votre télé, vous, pour encourager les Bleus ?
Non, je n'y serai pas.
Bon. La corrida, il en a été question cette semaine à l'Assemblée nationale, pour ou contre ?
Contre la corrida, pour la protection animale.
Donc vous comprenez les idées défendues par le député LFI Émeric Caron qui veut en interdire la pratique, malgré un rejet de sa proposition par la commission de loi. Le texte doit revenir d'ailleurs jeudi prochain à l'Assemblée. La cause animale ne peut l'emporter sur une tradition séculaire.
Alors, ce que je trouve dommage, c'est que ce soit un député parisien qui porte ce sujet-là et pas un député de province par rapport, effectivement, aux traditions. Après, je trouve aussi un peu regrettable que ce texte arrive qu'en quatrième position, puisque ce texte va être voté, effectivement, le jeudi 24 à l'Assemblée, mais il va arriver peut-être en fin de journée. On n'est même pas sûr, en fait. On va peut-être échanger sur le texte, mais on ne le votera peut-être pas. Et ça, c'est un choix d'LFI, hein, d'avoir positionné ce texte en fin de journée, on va dire. Après, aujourd'hui, je pense que les traditions doivent évoluer et que mettre à mal une bête juste pour le plaisir reste quelque chose que je ne comprends pas.
Une corrida sans tuer un taureau, c'est plus une corrida, en fait, c'est ça ?
Oui, et les férias, aujourd'hui, de nombreuses personnes vont aux férias en profitant sans aller à la corrida.
Plus localement à présent, on parle agriculture et environnement. Vous avez demandé, Anne-Laure Babot, des contrôles renforcés et des mesures de vigilance pour la pulvérisation du prosulfocarbe en plaine de Nice. Cet herbicide retrouvé en quantité record dans l'air sur le territoire. Vous avez saisi la DRAF et les chambres d'agriculture. Les habitants sont inquiets. Une association également, Avenir Santé Environnement, qui rassemble des familles touchées par un cluster de cancer pédiatrique. C'est une façon aussi de les rassurer.
Bien sûr, je pense qu'il faut rassurer et protéger au maximum les riverains des pesticides. Donc j'ai utilisé les moyens que j'avais, j'ai échangé avec le ministre de l'Agriculture, j'ai demandé des contrôles, j'ai fait un courrier aussi au mois de juillet pour demander une réglementation plus stricte.
Vous avez eu des réponses ?
Oui, tout à fait. Encore hier, par la DRAF, par les chambres d'agriculture. Donc, des contrôles sont en cours.
Il y a eu des engagements pris, c'est ça,
oui,
par les autorités ?
Tout à fait. Les contrôles sont en cours. Donc, je pense que d'ici quelques semaines, on aura un bilan. Mais de ce que j'ai cru comprendre, les agriculteurs ont pris la mesure de la problématique et ont diminué les quantités et diminuent globalement les quantités de pesticides, même si on aimerait que ça aille
plus loin
et que la réglementation aille plus vite.
C'est difficile aujourd'hui de se passer du prosulfocarbe dans l'agriculture ? Il y a des lobbies aussi derrière ?
Alors, prosulfocarbe et autres herbicides, hein, parce que si on ne met pas du prosulfocarbe, les agriculteurs mettent d'autres herbicides. Oui, il y a des solutions pour changer de modèle. Après, immédiatement, dans le contexte économique actuel, les agriculteurs ont besoin de solutions alternatives et on n'est pas encore suffisamment avancé en termes d'innovation. Il y a des moyens de mis pour innover autour des biocontrôles, mais on n'a pas encore des solutions à apporter aux agriculteurs. mais j'espère que ça viendra vite.
On travaille dessus, peut-être, aujourd'hui, sûrement.
Oui, tout à fait. Le gouvernement a mis 20 milliards d'euros, justement, pour innover sur ces sujets-là, entre autres. Donc, voilà. Après, le sujet est bien plus vaste. Il faut enclencher une transition agricole, et elle va au-delà des pesticides, de changer nos pratiques, de diversifier davantage, notamment d'être moins en monoculture. Il y a une question aussi de gestion de l'eau. Voilà, il y a une problématique globale autour de la transition agricole qui doit se poser.
Alors justement, l'eau, vous en parlez, la guerre de l'eau fait rage. Votre homologue du Val-de-Marne, Clémence Guettet, députée de la NUP, est présente ce matin à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres en soutien aux antibassines, la même où s'est déroulée une grande manifestation interdite fin octobre, suite à laquelle 5 militants seront jugés le 28 novembre au tribunal judiciaire de Niort. Une autre grande manifestation nationale est d'ores et déjà en préparation pour le 25 mars, toujours en Poitou-Charentes. Le combat continue contre les projets de méga-bassines, dont deux sont en cours en Charente-Maritime, à la grève sur Mignon et Saint-Félix. Quelle est votre position sur ce dossier ?
Alors déjà, moi je ne suis pas une manifestante dans l'âme.
Vous n'étiez pas à Sainte-Soline ?
Non, je n'étais pas, et d'autant plus parce qu'elle n'était pas autorisée. Donc je trouve que d'avoir des élus et d'avoir des députés sur place, c'est...
Comme Sandrine Rousseau par exemple,
oui. Oui, voilà, ça me semble regrettable aussi. Néanmoins, je comprends le combat de ces personnes qui ne souhaitent pas les bassines. Elles souhaitent en fait un modèle agricole différent. Je pense qu'encore une fois, on est sur une problématique bien plus large. Au-delà des bassines, c'est d'avoir un modèle agricole différent. Donc, concernant les bassines, je trouve que c'est normal de prendre l'eau l'hiver qui est en surface pour stocker et utiliser l'été. Plutôt sur des modèles
plutôt ridicule, justement, avec la sécheresse qu'on a pu connaître cet été, d'avoir de l'eau comme ça, des bassines pleines en plein air.
Mais il faut se dire qu'il y a des agriculteurs en bio qui sont très vertueux, qui ont des techniques très vertueuses pour l'environnement, qui ont du stockage, parfois du stockage individuel. Donc il ne faut pas non plus décrier toutes sortes de stockage. Après, c'est plus les abus qu'on peut en faire. L'eau est un bien commun, il faut qu'elle soit qu'elle puisse être utilisée par l'ensemble des agriculteurs.
Quelle solution pour un partage équitable ?
C'est un sujet sur lequel je souhaite me poser avec le préfet pour faire le bilan de l'année et justement travailler sur peut-être un protocole sur les années à venir, ce qui se fait dans d'autres départements.
Il faut revoir en profondeur le modèle agricole aujourd'hui ?
Personnellement, j'en suis convaincue, mais c'est aussi ce que le gouvernement porte. Néanmoins, ça se met en place pas aussi vite que certains écologistes et que pour ma part, je l'aimerais. Mais les choses s'enclenchent.
Anne-Laure Babot, députée de la Charente-Maritime, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci, bonne journée.